Bienvenue à Notre Histoire, le podcast qui parle de l'histoire autrement, depuis le point de vue des dominés. Je suis Lissette. Tierno Aliubaldé, membre du collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations.
Le musée est une expérience de dépolitisation des objets. C'est-à-dire tout est fait pour représenter l'objet comme étant uniquement simplement de l'art et l'art encore dépolitisé. Ces simples éléments de culture, c'est de la simple anthropologie toxique et coloniale. Et ça ne va pas au-delà de ça, c'est ce qu'on nous présente. Alors, au fur et à mesure des critiques, au fur et à mesure que les collectifs militants font des actions dans le musée, vous avez certains textes qui sont adaptés.
Quand tombe le mercure, le ciel pique du nez, les éclairs, ce sont des fissures dans un plafond goudronné, encaisser le choc thermique, échange d'amabilité au fond de la glace. Moi c'est Emeric Bouyamba, enchanté, mon prénom catholique est un passe-droit à ma couleur, dans les familles à salaire unique, on fait du 5 euros de l'heure.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Notre Histoire, le podcast qui parle de l'histoire du point de vue des subalternes. Aujourd'hui, nous allons évoquer l'histoire coloniale belge à travers celle du Musée Royal d'Afrique Centrale, rebaptisé Africa Museum de Bruxelles, en compagnie de Tierno Aliubaldé, membre du collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations. Ce collectif, fondé en 2012, cherche à faire sortir la Belgique du déni colonial et le racisme qui touche les descendantes et descendants des colonisés. Car la Belgique aussi a été un empire colonial. Au moment de sa plus grande extension, entre 1919 et 1931, il était constitué du Congo belge, du Rwanda au Burundi, Tianjin en Chine et Tanger au Maroc. Cet empire colonial trouve ses origines en 1830, la même année où la France envahit l'Algérie. En 1830, donc, la Belgique se sépare des Pays-Bas. À ce moment-là, elle ne possède aucune colonie, contrairement aux autres puissances européennes. La Belgique se lance alors dans de multiples tentatives d'expansion coloniale, dont beaucoup sont infructueuses. Les expéditions dites scientifiques, en réalité de conquêtes coloniales, servent à s'emparer de terres extra-européennes. En 1876, le roi Léopold II crée l'Association internationale africaine qui, sous couvert de travail scientifique et philanthropique, sert en réalité à financer des expéditions coloniales en Afrique. Grâce à cette association, la Belgique parvient à s'accaparer un vaste territoire, de l'estuaire du fleuve Congo jusqu'à son immense arrière-pays. La domination du Congo est une très bonne affaire pour la Belgique, car il s'agit d'un territoire riche et stratégique de l'Afrique. Pour parvenir à maîtriser le territoire du Congo belge, Léopold II constitue une armée appelée Force publique, qui s'est caractérisée par sa cruauté, ses pillages et ses crimes de lèse-humanité. cette armée est employée pour terroriser la population autochtone. L'une de ses pratiques les plus abjectes était de couper les mains des travailleurs qui n'auraient pas fourni le quota de caoutchouc demandé par les autorités coloniales. Par ailleurs, toute opposition au régime colonial était réprimée dans le sang. Et alors même que Léopold II s'était engagé pour abolir l'esclavage, le marché de personnes esclavisées ne disparaît pas. Aussi, selon certaines estimations, la colonisation belge au Congo aurait fait entre 1 et 5 millions de victimes. L'armée belge permet aussi l'exploitation des ressources naturelles africaines, comme le caoutchouc, le coltan, le cuivre, le zinc, l'étain ou le cobalt. Or, la Belgique a nié ce passé et a plutôt transmis un récit national axé sur la neutralité et la conciliation du pays. De là l'image, exportée partout dans le monde, d'une Belgique apaisée, inclusive et qui n'a rien à se reprocher. Les descendantes et descendants des colonisés proposent une autre lecture de cette histoire, notamment en visibilisant le passé colonial belge. Non pas pour diviser ou semer la cisanie, comme le disent les réactionnaires, mais pour panser la blessure coloniale qui fait encore des dégâts dans les populations racisées aujourd'hui en Belgique. C'est ce passé qui ne passe pas dont il sera question dans cet épisode. Tierno Aliou Baldé.
Le musée, il est important de le contextualiser, de sa période de naissance jusque maintenant. Le musée est né du succès d'une exposition universelle, et particulièrement d'un zoo humain, qui avait été fait en 1897 dans les jardins de Terburen. Ils avaient fait amener 269 Congolais qu'ils ont exposé là comme du bétail dans ce qu'ils appelaient les villages africains. Et c'était l'attraction principale, hein, en tout cas du pavillon colonial belge, qui normalement devait être organisé dans le parc du Cinquantenaire. Mais vu la place que ça commençait à occuper, la partie coloniale a été déplacée du côté de Terburen. Et donc, en déplaçant la partie coloniale, c'est toute une infrastructure aussi qu'il faut mettre en place pour permettre aux gens d'arriver directement à l'expo universelle. Donc, c'est la ligne 44, le tram, c'est l'avenue de Terburen, c'est aussi, beaucoup de gens oublient ça, hein, c'est aussi l'expropriation de populations belges qui sont faites pour construire cette majestueuse avenue. C'est pour ça que souvent on rappelle aux Belges que moi j'ai souvent tendance à dire en tout cas que les Belges d'aujourd'hui sont beaucoup plus amoureux de Léopold II que les Belges de son époque, parce que c'était un personnage extrêmement impopulaire, vraiment, pas seulement auprès du peuple mais aussi au sein de sa famille, au sein de la classe politique. C'était pas quelqu'un d'apprécié du tout, Et tout cet imaginaire autour de lui, de roi bâtisseur, a été construit pour justement ancrer cette colonialité chez les gens. Ça a été un grand succès, il faut le souligner.
Comme le dit Tierno Aliobaldé, l'Africa Museum est né dans un contexte colonial. Les musées, tels que nous les connaissons aujourd'hui, sont une invention du XVIIIe siècle en lien avec la philosophie des Lumières. Les hommes de pouvoir de l'époque, qu'ils soient des rois, des empereurs ou des princes, se servent des objets dont ils se sont emparés en Europe et dans le monde pour faire étalage de leur richesse, leur puissance et leur grandeur. Les musées, qui se multiplient au cours du XIXe siècle, sont donc d'abord des vitrines du pouvoir impérial. Dans le cas de la Belgique, le roi Léopold II veut montrer que son pays n'est pas un petit État, mais une vraie puissance coloniale. Comme on l'a dit précédemment, durant tout son règne, Léopold II multiplie les expéditions coloniales en Afrique. L'idée d'un musée servant à faire la publicité de ses conquêtes naît en 1894, à l'occasion de l'exposition universelle d'Anvers. L'idée fait son chemin et se concrétise finalement en 1897, lors de l'exposition internationale de Bruxelles, qui a vocation à faire la promotion de l'État indépendant du Congo, qui est alors la propriété privée de Léopold II. Dans le cadre de cette exposition internationale, le roi belge fait construire le palais des colonies dans le parc royal de Tervuren, un jardin de 205 hectares. La construction du palais des colonies est confiée au Français Alfred Philibert Aldroff, architecte attitré du banquier Gustave de Rothschild et spécialisé dans les expositions universelles. Le palais est conçu en bois tropical, alors que la décoration est censée évoquer la luxuriance de la végétation africaine. L'exposition présentait, quant à elle, des objets associés à l'imaginaire colonial, comme le café, le cacao, le tabac, ainsi que des essences forestières. Néanmoins, il ne s'agissait pas seulement d'exposer des objets, mais aussi des humains. En effet, le summum de l'exposition était le zoo humain, qui n'est pas une dérive coloniale, mais l'expression même de la colonialité. Car entre la fin du XIXe siècle et le début du XXIe, des dizaines et des dizaines de zoos humains, réunissant des millions de spectateurs, ont été montés dans toute l'Europe. Ils témoignent de la distinction raciale et l'infériorisation de certaines populations pour montrer la supériorité des Européens. Les conquêtes coloniales ont d'abord été celles des corps colonisés, déshumanisés et réduits au statut de barbares, voire de bêtes sauvages. Les zoos humains performaient, rendaient tangible la bestialisation des peuples colonisés. C'est la raison pour laquelle les organisateurs des zoos humains mettaient un soin tout particulier à montrer les colonisés sales, dénudés, mangeant de la viande crue, désœuvrés et alcoolisés. À Tervuren, dans le cadre de l'exposition coloniale de 1897, pas moins de 267 Congolais ont été emmenés de force en Belgique et présentés au public comme des animaux. Le zoo était appelé le village nègre, où avaient été disposés pour l'occasion des huttes, des pirogues et des plantes africaines. 7 Congolais meurent de maladie ou de froid, ce que Tierno Aliobaldé appelle très justement la maladie coloniale.
Donc, il s'agit officiellement, en tout cas, de ce qu'on sait, de 6 hommes et d'une femme, qui ont des descriptions un peu, qui démontrent la déshumanisation qu'il y avait, puisque c'est pas grand-chose de ces personnes. On nous dit qu'elles sont mortes de maladies pulmonaires, pour beaucoup. Nous, on dit toujours qu'ils sont morts de la maladie coloniale, puisque c'est la colonisation qui les met dans ce cadre qui fait qu'ils ont des maladies pulmonaires. Ça nous rappelle tout le mythe sur les aspects positifs où on vous dit que les soins de santé, c'est les aspects positifs de la colonisation, sans vous parler du fait que la colonisation a été la source de nombreuses tragédies au niveau de la santé. C'est comme si quelqu'un me met une gifle et qui me donne de la pommade et qui après il ne veut que je parle que de la pommade, sans préciser qu'il m'a mis une gifle quand même. Donc le système colonial en tant que tel a engendré de nombreux dégâts au niveau de la santé des populations de manière générale.
Kisa bakoko bango bandimaka te kasi na ndako ya nzambe biso tomonaka tokosambela chapele na maboko tokosambela bikeko bitondi ndako kasi bikeko yango se mindele mpo na nini nzambe.
Les Belges plébiscitent cette exposition et elles sont plus d'un million à s'y rendre en l'espace de 6 mois. Face à ce succès, on décide de la rendre permanente. Il s'agit aussi de montrer la puissance de la Belgique. Léopold II sollicite Charles Giraud, l'architecte du Petit Palais de l'exposition universelle de 1900 à Paris, et lui en demande une réplique. Le résultat est un édifice néo-baroque qui est inauguré à l'occasion d'une nouvelle exposition universelle qui a lieu à Bruxelles en 1910. Les jardins à la française le mettent en valeur comme un véritable palais des colonies. Écoutons Thierno Alioubaldé évoquer les objectifs du musée.
Et donc à Tervuren, 1 million de visiteurs sont venus pour voir les nègres, comme on disait. Donc, du succès de cette exposition, Léopold II et l'élite coloniale de l'époque vont se dire, il faut absolument créer un musée permanent de propagande coloniale à Tervuren. Donc, les travaux vont démarrer quelques temps après, 1898 à peu près, les travaux commencent. L'idée, enfin, il y a deux grands objectifs à la création de ce musée. D'abord, c'est que le musée doit devenir la vitrine de l'Afrique centrale depuis la métropole. Et deuxième objectif, c'est que le musée doit devenir la fenêtre sur l'Afrique centrale. Donc, dans ces doubles objectifs, le musée a gardé ces doubles objectifs jusque maintenant. Et c'est pour ça que nous disons notamment que le musée n'est pas décolonisé. Parce que décoloniser, ça veut littéralement dire ne pas faire ce qu'a été la colonisation. C'est aussi simple que ça. Et donc, il faut rompre avec les objectifs de départ. Sauf qu'on ne peut pas rompre avec les objectifs de départ parce qu'il y a tout un ensemble d'intérêts politiques et de rapports de force et de pouvoirs politiques qui sont autour de ce musée, notamment les affaires étrangères belges. C'est-à-dire que si notre petite Belgique veut se positionner à l'échelle internationale, l'histoire en est témoin, l'actualité également en est témoin. C'est souvent les anciennes colonies qui pèsent énormément dans la balance. Les récits de la Première Guerre, quand ils ne sont pas tronqués évidemment, de la Seconde Guerre, des grands concerts internationaux, des interventions de la Belgique auprès de l'ONU par exemple, c'est souvent ces cadres-là. Et le musée est une participation colossale à cette fameuse expertise dans la région des Grands Lacs. Donc cette forme de colonialité pour nous, elle est fort présente jusqu'au jour d'aujourd'hui, d'où la difficulté de véritablement décoloniser le musée. Et d'où le fait aussi que les questions de restitution soient complètement déconnectées des logiques de réparation. Parce que de base, c'est ça, les restitutions. C'est intrinsèquement lié. Malheureusement, on a tendance un peu à déconnecter la chose. Et le musée a fait ce travail-là. Il a fait un travail de propagande coloniale. Il a fait un travail d'expertise. Il a fait tout ce que la propagande coloniale a voulu. Il ne faut pas oublier que les trois grandes bases de la propagande coloniale belge, c'est d'abord cette question de la civilisation, apporter la civilisation. Deuxième élément, c'est la question de la lutte contre l'arabe esclavagiste. Et puis troisième chose, c'est tout l'aspect scientifique parce que les expéditions coloniales sont présentées souvent comme étant des cadres scientifiques. Vous avez souvent des géologues qui sont à l'intérieur, qui vont étudier les terres et qui font des rapports. Vous avez des cartographes, etc., etc. Donc, tout ça, c'est une connaissance du terrain qui permet le mécanisme de domination.
Jusqu'à l'indépendance du Congo en 1960, les collections ne cessent de s'agrandir par les envois des militaires, des missionnaires, des administrateurs coloniaux, des commerçants et des scientifiques. Ces collections viennent principalement du Congo. Aujourd'hui, le musée possède la plus grande collection du monde sur l'Afrique centrale, avec, entre autres, 125 000 objets ethnographiques, 10 millions de spécimens zoologiques, 80 000 échantillons de bois tropical, 4 km d'archives historiques, 300 000 échantillons géologiques, 1 million de photographies et de films. Comme le dit Tierno Alubald, cette immense collection a aussi une histoire coloniale.
L'un des premiers éléments sur lequel vous tombez, on vous dit quels sont les différents corps qui ont ramené en Belgique des objets. Vous avez les missionnaires, vous avez les commerçants simplement, vous avez les explorateurs, vous avez ces différentes composantes du système colonial qui sont rentrées en Belgique avec divers éléments, que ça soit des restes humains, que ça soit des éléments qui sont qualifiés aujourd'hui d'art, que ce soit des objets de la vie quotidienne des gens, tout ça est un peu ramené et ensuite, souvent, c'est beaucoup de dons aussi de familles coloniales qui, par exemple, ne savent plus quoi faire d'un certain nombre d'objets et donc qui donnent au musée, que ce soit en termes d'archives également. Donc, ces collections se sont constituées un petit peu comme ça, mais il y a aussi une vraie volonté politique derrière de constituer des collections. C'est des vraies politiques qui sont mises en place, autant à la période léopoldienne que à la période du Congo belge. Donc, il y a une volonté hein, de faire musée, une volonté de faire un musée colonial, de propagande coloniale, pour présenter l'œuvre coloniale comme étant purement de la philanthropie et un apport à la civilisation. On n'expose pas tout, c'est effectivement vrai, hein, c'est que la grande partie n'est pas exposée. On estime plus ou moins, si je me souviens bien, que c'est 1% des objets qui sont à la vue du public. Le vrai musée se trouve dans les caves, en réalité. Les chiffres dépendent souvent, mais j'entends régulièrement que seulement à Tervuren, il y aurait 198 000 objets à peu près. Donc, si on expose 1% de ça, mais c'est très peu d'objets. Comparé en tout cas à ce qu'il y a après, le public, même en voyant ce 1%, même en une journée, c'est impossible de voir ça. Parce que le musée, c'est un énorme truc. On entre dedans. Quand on n'a pas chez nous, on dit quand on n'est pas vacciné décolonialement, on ne sait pas en fait ce qu'on a vu. On a vu tout un tas de choses. mais on a été noyé quelque part dans un tout. Et puis, il n'y a pas non plus de fil rouge entre les différentes salles du musée. On a l'impression comme ça que c'est le compromis à la bêche, puisque chacune des salles est laissée à la gestion d'un corps scientifique qui décide un peu de mettre ce qu'il veut dans les différentes salles. Donc, en fonction de la sensibilité politique ou pas, ou de la soi-disant neutralité du corps scientifique qui gère, vous avez différents objets qui sont mis en place.
Ils nous ont coupé les mains, mais pas coupé la tête. Effacer notre histoire, mais pas gommer la dette. Ainsi font, président marionnette.
L'exposition permanente du musée de Bruxelles est restée presque inchangée depuis le milieu des années 1950 jusqu'à la fermeture du musée fin 2013. L'exposition permanente datait d'avant l'indépendance du Congo, qui a lieu en 1960, et le musée a donc servi avant tout d'outil de propagande coloniale. Ainsi, dans la rotonde centrale qui accueille le public, se dressaient de grandes statues de colonisateurs avec des titres tels que « La Belgique apporte la civilisation au Congo » ou « La Belgique apporte le bien-être au Congo ». On y trouvait aussi des statues de Congolais et Congolaises sexualisées. Le bâtiment comportait 45 fois le monogramme de Léopold II et plusieurs salles d'exposition montraient des citations du roi glorifiant la colonisation. D'autre part, l'exposition permanente avait une structure traditionnelle. Les objets présentés figuraient par groupe ethnique et les salles étaient organisées par discipline. Botanique, zoologie, géologie et minéralogie, anthropologie et ethnographie. Peu contextualisés, les objets et les animaux étaient montrés sans aucune interaction avec les êtres humains. Comme le rappelle Tierno Alubald, guide des visites décoloniales, le musée servait à construire un récit national colonial.
Le récit national, en tout cas autour de la colonisation, c'était de dire que il y a quand même eu beaucoup d'aspects positifs, qu'on n'avait pas à s'autoflageller sur la question coloniale, que les Belges n'avaient pas à avoir honte de quoi que ce soit par rapport à cette histoire. Et donc, il n'y a pas à rougir de quoi que ce soit. Il faut juste avancer vers l'avenir. C'est comme ça qu'on présentait les choses. Et même maintenant, vous retrouverez encore certaines formations politiques, certains hommes politiques qui vont vous parler de la sorte en vous disant, mais c'est vous qui ressassez tout le temps le passé, il faut aller vers l'avant maintenant, il faut construire des relations bilatérales de coopération entre nos différents pays, nos différentes communautés. Mais nous disons que souvent, pour nous, le passé colonial, en Belgique en tout cas, n'a de passé que le nom, que il faut pas confondre l'histoire et le passé. Souvent, on a l'impression que c'est passé, mais ça l'est pas. L'histoire se répète malheureusement au jour le jour et notre travail justement, c'est de montrer les similitudes qu'il y a et la continuité qu'il y a. Nous, quand on va avec le public à l'intérieur, c'est ce qu'on leur dit, c'est que ici, on glorifie le système colonial et on le glorifie en disant, voilà, telle personne, cette statue appartenait à tel chef, par exemple, elle servait à tel cadre spirituel à l'époque. Après qu'il ait été vaincu, ça a été ramené en Belgique par un tel. Il servait concrètement à faire de la propagande. Ça, c'était l'un de ses missions principales. Au-delà de servir au niveau des expertises, à conseiller l'État belge sur les différentes politiques qu'ils doivent mener sur le continent et particulièrement dans les anciennes colonies. Donc, effectivement, les chiffres sont par milliers de personnes qui visitaient le musée. C'était comme une tradition hein, pour le Belge lambda d'aller une fois au moins dans sa vie dans le musée. Et effectivement, c'était particulièrement ciblé sur les jeunes.
Monique Beka-Foba.
Le Rhin, c'est quand même un des rares espaces où émerge d'une certaine manière ce passé colonial. Il faut quand même savoir que chaque année, jusqu'à sa fermeture, il y a 30 000 élèves qui passent par là et dont c'est le premier accès à l'Afrique et peut-être souvent le dernier.
Do kitoko mokolo na kokufa yo koyate po bolingono koyabola musanga pamba.
Autant à l'époque coloniale qu'après. À l'époque coloniale, surtout parce que l'administration coloniale a toujours eu besoin de jeunes qui ont pour ambition de faire des carrières coloniales. Il ne faut pas oublier que les Belges ont toujours été minoritaires au Congo et qu'ils ont toujours besoin de cette main-d'œuvre blanche belge spécifiquement. Donc, le fait d'inciter la jeunesse à faire des carrières coloniales, c'est une façon de s'assurer le maintien de l'État colonial dans sa perspective, en tout cas. Et après, le musée s'inscrit dans le maintien du déni de ce qu'a été véritablement la décolonisation, de ce qu'a été la colonisation, de ce qu'ont été les résistances à la colonisation et de maintenir un récit pendant très très longtemps jusqu'à ce qu'il ferme en tant que tel. Le musée a maintenu plus ou moins le même discours de aspect positif à la colonisation, il n'y a pas de remords à avoir par rapport à celle-ci. Les associations d'anciens coloniaux avaient littéralement les clés du musée et faisaient des événements assez réguliers dans ce musée. Je pense à Mémoire du Congo, je pense à l'Uromé, etc., qui sont des vieilles associations coloniales qui existent toujours encore, qui font des activités encore, qui sont aussi déçues hein, de la rénovation d'une certaine façon, qui ont d'ailleurs entamé un certain nombre d'actions contre le musée. Donc, avant que sa rénovation actuelle, mais même maintenant, le discours est politique d'une certaine façon dans le fait de dire que le musée est neutre. Le musée joue la carte de la neutralité en disant, nous ici, on va tempérer un peu les tensions entre un public qui est militant et donc extrémiste d'une certaine façon, afro-descendant, et un autre public d'anciens coloniaux. Nous, on gère ici, au niveau de la scientificité du musée, au niveau de la neutralité du musée, soi-disant, on va un peu tempérer les tensions ici, et le musée sert à ça. Mais l'un des problèmes fondamentaux aussi, c'est ça, parce que se dire neutre dans un système de domination et se dire neutre dans une thématique aussi problématique que celle-là, qui a porté autant d'injustices, pour nous, c'est absolument, absolument problématique.
La salle des minerais, appelée toujours cabinet des minéraux, est un exemple de la visée coloniale du musée. On expose la richesse minérale de la Belgique sans la contextualiser, comme dans le cas du coltan. Le coltan est un minerai dont on extrait le niobium et le tantale. C'est ce dernier qui fait toute l'utilité du coltan. Le tantale produit à partir du coltan est très recherché dans la fabrication de certains composants électroniques, comme les condensateurs d'ordinateurs ou de téléphones portables. Selon les estimations, le secteur de l'électronique monopoliserait 60 à 80% du marché du tantale. Il est également retrouvé dans les missiles, fusées ou encore les avions. On l'utilise enfin dans l'aéronautique et la fabrication des réacteurs. Les ressources mondiales de coltan sont réparties dans de nombreux pays, en particulier l'Australie, le Brésil, la Chine, le Canada, l'Espagne ou la République démocratique du Congo. Selon plusieurs sources, la République démocratique du Congo hébergerait entre 60 et 80% des réserves mondiales connues du minerai. De par son importance économique, le coltan a été au cœur d'une guerre particulièrement brutale en République démocratique du Congo de la fin du XXe siècle au début du XXIe. Avec près de 6 millions de morts, cette guerre fait partie des conflits les plus meurtriers que le monde ait connus après la Seconde Guerre mondiale. Un rapport présenté par les experts de l'ONU en 2001 accuse les groupes armés de la République démocratique du Congo et de ses voisins que sont l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi d'extraire illégalement et de transporter en contrebande le minerai de la région de Kivu. Selon le rapport, l'argent tiré de ce trafic sert à financer et à prolonger la guerre, notamment par l'approvisionnement en armes, mais également à remplir les poches des uns et des autres, et notamment des Occidentaux. Car dans ce conflit, les entreprises étrangères opérant dans l'informatique et l'électronique gardent le silence quant à la provenance douteuse du coltan utilisé dans leurs appareils. Parmi les sociétés les plus impliquées se trouvent Apple, Bayer, Sony, LG, Samsung ou Intel. Ces entreprises exploitent des enfants qui sont enlevés sur le chemin de l'école et forcés de travailler dans des mines de fortune, à la manière des orpailleurs, sans aucune sécurité. En plus de ces dramatiques pertes humaines, l'exploitation du coltan a un impact très négatif sur l'écosystème local, car il bouleverse en profondeur la vie des communautés locales. Tous ces enjeux sont invisibilisés dans le parcours du musée, comme le souligne Tierno Alioubald à propos du cabinet des minarets.
Pour nous, c'est une salle qui est parmi les la plus scandaleuse. Pourquoi? Parce que on sait qu'il y a un conflit autour de ces minerais, pas depuis seulement ces 20-30 dernières années à l'est du Congo, mais qu'il y a un conflit autour de ces minerais depuis des décennies et des décennies. Que ça fait toujours des victimes, qu'il y a eu du travail forcé autour, etc., etc. Mais vous rentrez dans la salle des minerais, il n'y a aucun de ces enjeux qui vous est présenté. On vous dit ça, c'est du coltan, ça, c'est du diamant, ça, c'est de l'or, etc., etc. C'est-à-dire que le minerai n'est vu que parce qu'il est minerai. Il n'y a pas de contextualisation sur exactement c'est quoi les conditions qui ont amené ce minerai en Belgique. Et encore plus grave, sur particulièrement le minerai de coltan. Et ça, on a interpellé, je sais pas combien de fois maintenant. À chaque fois qu'on fait des visites guidées dans le musée avec un public, on interpelle toujours là-dessus. C'est que le minerai qui est présenté dans la salle est principalement présenté comme venant du Rwanda. Pour nous, ça, c'est extrêmement problématique parce que dans la même salle, dans la salle des minerais, on vous dit qu'il y a plusieurs mines géographiques qui sont disposées à l'est du Congo. Il y en a aucune qui est disposée dans le territoire du Rwanda. Et pourtant, la plupart des pierres de coltan qui vous sont présentées proviennent du Rwanda. Pour nous, il est important là de placer le mécanisme qui est en place. On sait que le gouvernement rwandais, ça a été prouvé par différents experts de différentes institutions, que le gouvernement rwandais actuel, tout simplement, fait transiter le minerai d'une zone de guerre vers une zone de paix pour qu'il soit commercialisable. Il est important pour nous que cette salle soit beaucoup plus politisée, et comme toutes les autres salles.
Ainsi, jusque dans la deuxième moitié du XXe siècle, le musée de Tervuren reste un outil servant à la formation de la fierté nationale belge. Des voix critiques, issues notamment de la diaspora africaine, se font entendre. Cela fait écho au débat autour de la mort de Patrice Lumumba, qui fut l'une des principales figures de l'indépendance du Congo belge. Extrait du discours de Lumumba lors de la proclamation de l'indépendance du Congo, 30 juin 1960.
L'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Car cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, ni les Congolais du de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle nous n'avons mélangé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Cette lutte qui fit des larmes, des feux et des sangs, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une lutte noble et juste, une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Ce qui fit notre sort à 80 ans de régime colonialiste, nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Quand nous avons connu le travail harassant, exigé en échange des salaires qui ne nous permettaient ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les vœux honorables étaient réservés au seul blanc.
Indépendance, tcha-tcha, tosouillé, okipwanza, tcha-tcha, tout bakini, au table rond, tcha-tcha, bakanyeo, okipwanza, tcha-tcha, tosouillé. Asoreko na bako bayokani motomoko nakonaka na kafte balingani na francomé.
Anticolonialiste, Lumumba est accusé d'être un communiste allié de l'Union soviétique par les Occidentaux. Il est assassiné en 1961 dans des circonstances assez floues. En 1991, Jacques Brassine de la Bussière, un haut fonctionnaire belge, consacre sa thèse de doctorat à l'assassinat de Lumumba. Dans son travail, Brassine écarte toute responsabilité de la Belgique dans l'assassinat du leader congolais. Quelques années plus tard, en 1999, Bruno de Witt invalide cette thèse. Dans son travail, il montre comment le corps de Lumumba a été démembré et dissous dans de l'acide sulfurique par des agents de l'État belge. L'ouvrage suscite la polémique et l'État belge nomme une commission d'enquête en 2001. Celle-ci conclut à la responsabilité morale, non pas de la Belgique, mais de certains membres du gouvernement belge et d'autres acteurs belges. Cette formule est pratique pour le gouvernement, car elle n'a pas de conséquences juridiques et surtout pas pénales. Écoutons Tiernan Aliubald évoquer cette histoire.
En réalité, c'est pas le musée qui se réveille un matin, ou en tout cas, c'est pas la classe politique belge qui se réveille un matin et qui dit « bon, il faut faire la décolonisation du musée, il faut recontextualiser tout ça, c'est un contexte politique et c'est des rapports de force de la base qui permettent à ce qu'il y ait ces mouvements politiques-là. Donc, le contexte particulier par rapport au musée, en tout cas qui amène la réflexion autour de la rénovation du musée, c'est d'abord la fin des années 90, tout simplement, hein, puisque 99, ici en Belgique, il y a un sociologue belge qui écrit sur l'assassinat de Patrice Lumumba. C'est un ouvrage qui va faire grand bruit et qui va complètement déboulonner la thèse officielle qu'on avait en Belgique. Cette thèse officielle qui avait été notamment scientificisée, si je peux dire ça comme ça, par un de ceux qui est soupçonné dans l'assassinat. Un certain Jacques Brassine de la Bussière, c'est ce personnage qui écrit une thèse en 91, thèse défendue à l'ULB, à l'Université libre de Bruxelles, thèse qui obtient la plus grande distinction, une thèse qui dit en gros que en fait c'est une affaire entre nègres, que la Belgique n'a rien à voir. Et puis après, une certaine presse belge va reprendre en fait cette thèse pour la vulgariser un maximum en disant voilà, la Belgique définitivement dédouanée dans l'assassinat. Sauf que à peu près 10 ans plus tard, Ludo de Wit fait cet ouvrage où il critique fortement cette thèse, la manière dont elle a été écrite, la méthodologie, les sources qui ont été choisies par rapport à d'autres, etc., etc. Et donc, ça va amener petit à petit à la création de cette commission au niveau fédéral, du Parlement fédéral, qui va être chargée d'enquêter sur la responsabilité belge dans l'assassinat. Alors, cette commission donne ses conclusions en 2001, où en gros, elle dit qu'il y a responsabilité morale de la Belgique. C'est la première fois, en tout cas, que la Belgique reconnaît une responsabilité. Bon, elle va la qualifier de morale. Et cet enjeu-là est proprement problématique aussi.
Parallèlement, à partir des années 2000, des collectifs antiracistes mettent en avant la question coloniale. Le plus ancien collectif antiraciste belge, le MRACS, Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie, soutient que la Belgique est un pays structurellement raciste. D'autres collectifs se constituent durant cette période. C'est le cas du collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations, dont Tiernan Alibald nous raconte l'histoire.
Et puis, il y a un certain nombre d'associations aussi hein, qui font un travail. Du contexte belge, vous avez le MRACS, par exemple, qui est la plus vieille association antiraciste, en tout cas, qu'on a ici en Belgique, qui s'est donné proprement cet objectif, qui va aussi porter ces questions-là. Et puis, vous avez tout un ensemble d'individus, il faut pas dire les choses autrement, qui font aussi un travail de terrain, que ce soit des Blancs ou des personnes afrodescendantes, qui font un peu vivre la question. Mais c'est véritablement au tournant des années 2010-2012 à peu près que les choses commencent. Depuis 2012 à peu près, on a démarré notre collectif dans l'idée de faire remonter à la surface cette histoire qu'on avait volontairement ignorée. Et donc, la volonté, c'était d'abord de montrer aux gens que 80 ans d'histoire, ça peut pas juste s'effacer comme ça. Et pour nous, c'est pas comme si ça s'était arrêté dans les années 60, c'est qu'il y a une forme de continuité entre les relations qu'ont la Belgique et ses anciennes colonies aujourd'hui, mais également entre la Belgique et les populations afrodescendantes qui vivent en Belgique. Donc les Congolais, Rwandais, Burundais, mais également tous les autres immigrations issues d'autres pays africains qui répondent également au même cadre de propagande coloniale, qui sont impactés par le même cadre de propagande coloniale, qui subissent plus ou moins la même négrophobie, qui a la même origine coloniale. L'idée de notre collectif, c'était de fondamentalement faire le lien entre le racisme et la colonisation, et de se battre concrètement contre le racisme, et de permettre à ce qu'on parle de cette histoire sans qu'il n'y ait de tabou, et qu'on l'aborde sous tous ses aspects politiques, ses aspects mémoriels.
Effacer notre histoire, mais pas gommer la dette. Ainsi font, président marionnette. Nous prennent pour des cobayes, mon par piqûre d'infectes. Et ils ont tué Sankara. Et ils ont tué Lumumba. La révolution survivra. Peut-être que le prochain, c'est moi.
Kata, kata. Kata maboko, kata, kata, 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 kata.
La rénovation du Musée royal d'Afrique centrale intervient dans ce contexte. À la fin des années 1990, un regroupement d'associations africaines est créé à Anvers pour comprendre l'origine de la négrophobie belge. Les associations pointent du doigt le passé colonial et elles identifient deux institutions qui structurent l'image des Africains dans la population belge. Il s'agit du zoo d'Anvers et du musée de Tervuren. En 2001, en accord avec le directeur du musée, on crée un groupe consultatif de représentants de la diaspora africaine de Belgique, le COMRAF, chargé de remettre un avis sur le musée. Tierno Alioubald.
En tout cas, mémoire coloniale, on n'était pas impliqué dans ce qui s'appelait le COMRAF, qui est en fait une structure qui était censée, en tout cas, aider le musée dans le cadre de sa rénovation. C'était en fait le lien entre la diaspora africaine présente en Belgique et la rénovation du musée, le musée en tant que tel. Cette collaboration s'est très très mal passée et c'est fini finalement qui n'a rien donné. Il faut pas dire les choses autrement. Le groupe est parti tout simplement du fait que nous par exemple l'un de nos slogans c'est de dire tout ce qui est fait pour nous sans nous est fait contre nous. L'idée c'était de dire qu'il est hors de question que le musée qui se prétend aujourd'hui être l'Africa Museum se rénove ou se décolonise sans que quand même les Africains ne soient impliqués dans cette affaire.
De son côté, le Musée royal d'Afrique centrale organise, au début des années 2000, plusieurs expositions sur la colonisation du Congo. Ainsi, en 2005, l'exposition intitulée « Mémoire du Congo, l'ère coloniale » exposait la colonisation du Congo par la Belgique. L'exposition accueille 140 000 visiteurs. Mais surtout, pendant une période de 8 mois, presque chaque jour, il y a des débats dans les médias sur le passé colonial de la Belgique. En 2010, l'exposition Indépendance présente un point de vue sur l'indépendance du Congo à partir d'histoires congolaises. Le musée lance également un programme d'artistes en résidence pour que des artistes africains puissent travailler sur ces collections et y apporter un regard nouveau et contemporain. Guido Grissel, qui a dirigé pendant 21 ans le Musée royal d'Afrique centrale, explique les raisons de la rénovation.
Notre musée avait une exposition permanente qui n'avait plus changé depuis les années 50. Donc on présente toujours le regard de la Belgique sur le Congo d'avant l'indépendance. Dans certains médias, on les appelait le dernier musée colonial au monde. Donc on voulait changer cette image drastiquement et aussi décoloniser le musée dans toutes ses poussières, mais surtout regarder du point de vue des Africains, pas uniquement le point de vue des Belges.
Les associations antiracistes attendaient la décolonisation du musée. Or, ce sont les scientifiques et le directeur qui prennent les rênes de la rénovation, ce qui provoque des tensions entre le musée et le COMRAF. Finalement, le Musée royal d'Afrique centrale ferme ses portes en décembre 2013. Le bâtiment historique du musée est entièrement rénové et le musée est rebaptisé Africa Museum. Le nouveau musée double pratiquement son espace public, passant de 6 000 à 11 000 m². Le coût total de l'opération s'élève à 74 millions d'euros, dont 66 millions sont consacrés à l'infrastructure du bâtiment, comme le rappelle Tierno Alioubald.
Ça part surtout de... On donne un mandat surtout à un directeur du musée qui va se charger, avec ses différentes équipes, les différents corps scientifiques, de trouver une autre façon de présenter le musée. Comme j'ai dit, puisque il va être très compliqué de trouver un fil rouge, il va falloir trouver, n'est-ce pas, des compromis. Et c'est ces compromis-là qui font le musée aujourd'hui, en interne en tout cas. Et donc, différents corps scientifiques se disent, bon, nous, de toute façon, c'est notre expertise, donc on n'a pas de leçon de morale à recevoir de qui que ce soit. On va décider. C'est tout ce qui fait la difficulté aussi qu'il y a eu entre le COMRAF et le musée. Vous avez des gens qui travaillent dans ces domaines qui leur ont été transmis depuis la période coloniale, qui refusent pour beaucoup hein, de changer leur manière de faire, et qui estiment qu'ils n'ont pas de leçon morale à recevoir de qui que ce soit, et donc qui continuent dans la logique qu'ils les ont. Alors, il faut aussi préciser que même dans l'argent qui est donné pour la rénovation du musée, l'objectif, c'est pas tellement de changer les choses, c'est de plutôt dépoussiérer. Le gros de l'argent a été souvent dans le bâtiment lui-même, c'est-à-dire refaire les fils électriques, l'électricité, les lumières, retravailler un peu le sol, mettre plutôt des vitrines de telle sorte et de telle sorte. Le gros de l'argent est parti dans ça. Ce qui est parti dans concrètement l'exposition, c'est très peu par rapport à tout l'argent qui a été mis. Je crois que en tout, le musée, c'était 80 millions qui avaient été mis. On estime, je crois, plus de 160 millions qui sont partis simplement dans des histoires techniques, du bâtiment, quoi.
Contrairement à ce que son nom laisse entendre, l'Africa Museum n'envisage pas l'ensemble de l'Afrique contemporaine, mais seulement le Congo et très marginalement le Rwanda et le Burundi de la période coloniale. Dès l'entrée, les visiteurs découvrent une grande pirogue de plus de 22 mètres, pesant 3 tonnes et demie, ayant servi Léopold III lors d'un voyage au Congo en 1957, et qui est présenté comme un cadeau fait par les Congolais au roi belge. D'autre part, à côté de la salle d'introduction, se trouve un dépôt de sculptures déclaré hors-jeu, où l'on trouve, posés en vrac, des statues, des objets et des images des colonisateurs, mais sans expliquer pourquoi elles ont été mises là. Plus largement, le musée continue à véhiculer une image infériorisante des Africaines et Africains. Dans ces conditions, on ne peut pas parler d'une décolonisation du musée, comme le dit Tiernot à Lubald.
Par exemple, il y a ce nouveau bâtiment qui a été construit, qui est quasi, qui, comment dire, qui est joint à l'ancien bâtiment qui a été construit à la période coloniale. Et ce gros bâtiment, quand vous rentrez, c'est un bâtiment blanc, hein, c'est d'abord l'accueil qui est là, vous avez un vestiaire, vous avez différentes salles de conférence qui ont été mises. Vous avez un grand couloir qui a été aménagé pour accueillir cette pirogue, je sais pas combien de mètres, très symbolique, l'un des objets les plus symboliques du musée. Et puis vous avez tout le haut de ce bâtiment qui est une espèce de justification de ce que vous allez voir dans le bâtiment. C'est là que vous avez le texte sur patrimoine au musée. C'est là que vous avez la partie sur comment se sont constituées les collections. C'est là aussi qu'il y a une autre petite salle qui s'appelle la salle mise hors jeu. Le musée a estimé que, il y avait un certain nombre d'objets qui étaient particulièrement porteurs de propagande coloniale, qu'ils ont mis dans une salle qu'ils ont appelée mise hors jeu, la salle hors jeu. Bon, jusqu'il y a très peu, pour un certain nombre d'objets qui étaient là, de bustes par exemple de militaires, on vous disait pas qui étaient les militaires. Donc le général Storms, on vous disait, oui, c'est le général Storms. Le capitaine Lucien Biard, on vous disait, lui, c'est le capitaine Lucien Biard. Mais on vous précisait pas qui ils étaient. C'est à force qu'on fasse des visites guidées à l'intérieur que l'écran, en tout cas, qui présentait ces différents personnages, a changé. Ils ont ajouté des textes à l'intérieur. C'est pour ça que je dis que, en fonction de nos activités en interne, on voit qu'il y a des choses qui bougent au niveau simplement de la communication.
Pour les collectifs antiracistes, l'Africa Museum a fait peau neuve, mais il ne s'est pas décolonisé. Tiernot Alioubaldé.
Au départ, en tout cas, moi, j'étais pas encore là physiquement, en tout cas dans les mouvements. C'est plutôt nos aînés qui nous ont transmis, en fait, comment ils ont accueilli la chose à l'époque. Il n'y avait pas vraiment d'espoir sur une révolution qui allait arriver. C'était vraiment pas ça. C'est des gens qui, avec l'expérience de travail avec les pouvoirs politiques en Belgique, se rendent bien compte qu'il faut pas se faire, faut pas trop s'imaginer des choses. Il faut garder les pieds sur terre, il faut être vigilant tout en vigilant. Et cette vigilance a été gardée, hein. dans toute la période de la rénovation du musée. Il y a eu beaucoup d'observations. C'est pour ça que nous, par exemple, directement, on n'a pas été fortement impliqués dans la rénovation en tant que telle, parce qu'on regardait ça de l'extérieur, puisque on n'a pas vraiment été consulté, notre avis n'était pas respecté en tant que tel. Donc, pourquoi perdre de l'énergie à aller, comment dire, servir de caution simplement à des personnages politiques qui vont juste dire, ah, mais on a aussi consulté la diaspora, vous savez, voilà, ils ont collaboré avec nous. Et au final, on se retrouve pris dans des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord.
Monique Beka Foba.
Ça contredit complètement ce qu'ils essaient de nous faire passer comme message, c'est-à-dire que c'est un musée décolonisé. Il est exactement dans la même conception qui a prévalu quand il a été créé dans les années 1900 pour faire la propagande de l'œuvre de Léopold II au Congo. Parce qu'on n'a pas réellement coupé avec cette présentation-là, ces conceptions-là, et on prétend toujours en faire un endroit exotique où va se divertir le week-end la bonne bourgeoisie en voyant des sauvages, des animaux et des gens qui ont beaucoup, beaucoup de soucis si les Belges, si gentils et si bienveillants, n'étaient pas là pour les aider.
Rien, ou presque, ne vient vraiment ternir l'image du souverain de l'État indépendant du Congo, Léopold II, malgré la réalité des enlèvements d'enfants, du travail forcé et du pillage des ressources, des mains coupées, évoqué à peine en quelques lignes. Comme le dit Tiernan à Liubald, la décolonisation du musée est une entreprise qui va au-delà de la simple rénovation des bâtiments.
On a pu critiquer le musée et on continue encore de le critiquer. Tout ça dans le sens de dire que pour qu'il se décolonise véritablement, il va falloir une vraie implication politique du décolonial dans le musée et une vraie considération de l'expertise de chacun sur cette question. Alors, nous, on a eu plusieurs propositions. D'abord, sur les questions de restitution du musée. Notre position là-dessus, ça a été de dire, il faut d'abord nous restituer l'histoire des objets. Encore une fois, toujours dans la logique de vigilance, hein, puisque on va très vite en besogne maintenant en Belgique. Il y a même un cadre légal qui a été adopté autour de la restitution, qui est, à notre sens, un cadre dangereux, puisqu'il ne permet pas de voir globalement le problème. En fait. Parce qu'il nous fallait absolument connaître l'histoire de chacun des objets pour pouvoir envisager un cadre de réparation globale. Je vous donne un exemple tout bête. Si quelqu'un décide qu'il a besoin, je sais pas, de mon pull, par exemple, parce qu'il a froid, et que je lui donne pas parce que sinon moi-même j'aurais froid, qu'il y a un conflit, cette personne décide de m'assassiner, de me couper la tête, de récupérer mon pull, se couvre avec et ensuite rentre dans son pays, décide de le mettre dans un musée pour en faire un peu d'argent, etc. Et qu'un jour mes descendants viennent le voir en disant bah écoutez, ce pull ne vous appartient pas, est-ce que vous pourriez me le rendre? Moi, c'est trop facile de juste prendre le pull et de donner à la personne. On a oublié plein de choses dans l'histoire. On a oublié qu'il y a une provocation, qu'il y a eu conflit, qu'il y a eu un massacre sur moi-même et sur d'autres populations peut-être, qu'on m'a coupé la tête, que ma tête est aussi rentrée en Belgique dans un institut scientifique pour faire des politiques de craniométrie, etc., etc. Donc, à notre sens, il nous fallait d'abord restituer le cadre historique de ces différents objets pour voir à quel point on peut encore envisager des réparations sur des éléments spécifiques. Ce travail-là n'a pas été fait, on se précipite dans d'autres enjeux qui vont en fait permettre de déconnecter complètement le cadre de restitution et le cadre de réparation. Donc, sur la question de la décolonisation par rapport aux objets, c'est notamment ça, c'est d'abord de pouvoir avoir en fait ce qui s'est véritablement passé. Pas seulement les archives coloniales non plus, qu'il faut utiliser pour connaître l'histoire. Il y a toutes les archives orales, il y a tout un ensemble de sources historiques qu'il faut mobiliser. Et puis, il y a tout ce qui concerne à quoi servirait le musée sans ces objets. Pour nous, c'est une question importante aussi à laquelle il faut répondre. On a dit, hein, ce musée pourrait servir d'un musée d'histoire de la colonisation. Il y a suffisamment un musée de mémoire sur la colonisation. Vous avez dans le musée aujourd'hui une salle qui est consacrée à l'histoire coloniale. Ça aussi, ça tombe pas du ciel. C'est parce qu'il y a eu un rapport de force concret qui a été mis en place et que c'était une nécessité en tant que telle. Mais pour nous, tout le musée peut servir, notamment à faire de l'histoire coloniale. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait. Nous, quand on rentre avec les gens, on leur permet de saisir les différents enjeux historiques autour de l'affaire, mais aussi les connexions avec l'actualité. Il n'est pas nécessaire d'avoir tous ces objets-là pour qu'on décolonise le musée, parce que vous entendrez des gens vous dire que en fait, il n'y a pas de musée au Congo. Et donc, c'est important que la Belgique garde ces objets le temps qu'il y ait des musées au Congo. Alors, ce qui est faux déjà, c'est qu'il y a des musées au Congo. Il y en a plein. Il y en a plein qui ont des vraies capacités d'accueil de beaucoup de choses. Donc, une autre question, c'est est-ce que ces objets sont à destination du musée? Parce qu'au départ, c'est le colonialisme qui décide de les mettre dans des musées. C'est pas qu'ils ont été pillés dans des musées là-bas et qu'ils ont été amenés en Belgique à destination d'autres musées. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est des objets qui étaient dans différents cadres, qui ont été regroupés dans ce cadre muséal pour en faire de la propagande coloniale. Donc, il faut pas inverser les choses. Et l'idée derrière aussi, c'est que ces objets sont plus en sécurité en Belgique qu'au Congo. Ça aussi, on l'a déconstruit plein de fois. On sait qu'il y a des objets qui ont disparu dans le musée ici. C'est pas que la question de la sécurité, c'est que l'Europe, hein, dans son arrogance habituelle, dans son cadre civilisationnel habituel, présente les choses comme étant ici c'est la sécurité et là-bas c'est le danger. Ici, on sait conserver la culture, on sait conserver le patrimoine de toute l'humanité, et le reste de l'humanité ne sait pas le faire. Le reste de l'humanité a besoin de l'Europe pour conserver le futur. Et conserver le passé. Non. L'histoire se conserve de différentes façons, dans différentes civilisations et différentes façons de faire. Il n'y en a pas une qui est supérieure à l'autre, etc. Donc il faut arrêter avec ces cadres racistes qui le sont clairement pour nous. Donc il y a différentes façons d'envisager cette décolonisation. Et puis surtout, pour nous, décoloniser, c'est aussi une question de pouvoir. Une question de pouvoir parce que on sait aujourd'hui que la Belgique a du pouvoir grâce au musée. Se fait un petit pouvoir grâce à ce musée. Un exemple tout bête, en 2017, le Premier ministre à l'époque belge avait été au Conseil de sécurité de l'ONU pour faire valoir la place de la Belgique. L'un des arguments forts qu'on avait sorti, c'est la Belgique a une expertise dans la région des Grands Lacs. Encore régulièrement aujourd'hui, le contexte est particulier même en ce moment entre les tensions fortes qu'il y a diplomatiques entre le Congo, la RDC et le Rwanda, Belgique se présente encore comme étant un médiateur entre ces deux pays africains. Donc c'est des enjeux de pouvoir. La Belgique se fait un pouvoir. Son expertise vient principalement de ce musée dit de l'Afrique. Donc pour nous, comment dire, les Africains sont suffisamment politisés, sont suffisamment grands. C'est pas des grands enfants, ils sont suffisamment grands pour gérer leurs problèmes. On n'a pas besoin du tutorat des anciens colons pour nous dire ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien chez nous. Par exemple, simplement, on va pas nous dire que toute l'expertise qu'il y a dans ce musée n'est pas monnayée d'une certaine façon. Que par exemple, si je suis un entrepreneur et que je veux investir dans les mines au Congo, ben, l'un des endroits les plus indiqués pour avoir la connaissance du terrain, c'est notamment le musée. On sait qu'il y a un certain nombre de cartes de minerais qui sont au musée ici. Donc c'est l'un des endroits indiqués pour ça. On ne va pas nous dire que ces multinationales qui ont investi au Congo ne sont nullement passées par l'expertise belge et qu'ils n'ont pas monnayé ça d'une certaine façon. Et que les entreprises belges même qui investissent au Congo n'ont pas besoin de ce musée d'une certaine façon. Ça m'étonnerait fort.
C'est la raison pour laquelle le collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations propose des visites guidées décoloniales de l'Africa Museum que Tierno Aliubald nous détaille.
On partait de Montgomery, même pas à Tervuren. On partait de Montgomery au départ du tram 44 pour présenter un peu d'où est venu le musée d'une certaine façon. Donc, l'expo universelle, on arrive à Tervueren, on parle du bâtiment du musée, de ce qui s'appelait à l'époque le Palais des colonies, qui a été l'un des premiers bâtiments installés là, le musée en tant que tel, sa rénovation, le pavillon Stanley, etc. L'endroit où aussi il y a eu le zoo humain, puisque faut aussi savoir qu'avant 2018, il n'y avait aucun élément qui indiquait au niveau de cet endroit qu'il y avait eu là cet événement grave. Depuis 2019, si je ne me trompe pas, il y a une plaque qui a été mise par la ville de Tervueren, sous impulsion évidemment des collectifs militants, qui dit, voilà, ici il y avait en 1897 un zoo humain, etc., etc. Et puis on termine devant l'église de Tervueren, l'une des églises où vous avez les 7 tombes des 7 personnes qui sont décédées à l'exposition universelle de 1897. Donc ce parcours-là, on l'a fait au départ pour contester cette rénovation du musée. Donc on n'entrait pas au départ dans le musée. Après, on a reconsidéré la chose parce qu'on voyait l'ampleur de le nombre de personnes qui visitaient le musée. Et on s'est dit qu'il fallait quand même nous faire quelque chose. Donc, à partir de 2019, on a créé ce parcours à l'intérieur qui aborde le musée au travers de son expo visible, mais aussi de ce qui n'est pas visible. Donc, notamment, on va aborder cette question de la pirogue, puisque la pirogue est par exemple présentée comme un don des populations envers Léopold III. Cette question du don dans un système de domination, il faut la contextualiser. Parce que si on la déconnecte, en fait, c'est de la pure philanthropie. On vous dit, c'est un don. Donc, c'est légitime. Donc, sa présence en Belgique est légitime. Or, si la question du don est contextualisée dans un mécanisme de domination, on comprend c'est quoi le don. C'est-à-dire que si je suis dominé, je fais un don à mon maître, c'est pas pour ses beaux yeux. Peut-être que je veux que son système s'applique le moins possible à moi. Donc, cette question du don doit être recontextualisée dans un cadre précis. Ou la question de l'achat. Un colon a acheté un objet au Congo à l'époque et rentré avec en Belgique. On va dire non, c'est légitime, ça a été acheté par la personne. Or, la question du pouvoir d'achat dans le système colonial doit être posée aussi. Comment cet argent a été obtenu? Qui, par quels moyens et comment est-ce qu'on achète, etc. Comment cet argent est fait, tout simplement, permet de comprendre le mécanisme de domination derrière. Donc, ce parcours est un parcours global. On passe par différentes salles, notamment la Rotonde, qui est une des salles emblématiques du musée, qui est l'ancienne entrée du musée, qui était faite pour épater les yeux, hein, puisque un certain nombre de contrats ont été signés aussi là. La salle des minerais dont j'ai parlé tout à l'heure, faire le lien avec la guerre à l'est du Congo actuelle. La salle histoire coloniale, où on termine en général, où on critique aussi un certain nombre d'éléments dans cette salle. Donc, c'est une visite qui change un peu des visites classiques qu'il y a au musée, même si vous avez un certain nombre de guides au musée qui font quand même un travail, un bon travail, il faut le souligner. Maintenant, vous avez beaucoup de guides qui sont extrêmement problématiques. Donc, ça laisse encore beaucoup de propagande qui passe au travers des guides.
Quand tombe le mercure, le ciel pique du nez, les éclairs ce sont des fissures dans un plafond goudronné, encaisser le choc thermique, échange d'amabilité au fond de la glace. Moi c'est Emeric Bouyamba, enchanté, mon prénom catholique est un passe-droit à ma couleur.
J'espère que cet épisode vous a plu. Si tel est le cas, je vous invite à le partager, car le savoir est un outil d'émancipation. Vous trouverez les références citées dans le descriptif de l'épisode. Vous pouvez également me contacter via les pages Facebook et Instagram de notre histoire. À bientôt.
Paris, Paris, chambre de bonne, boulevard large comme le fleuve. Peu de champs de manœuvre, en classe prépa, dans mon cas, c'est la course, certificat. Les papiers, c'est le Graal, Bénonville à la verticale. Les assorts évangéliques font la sécu jusqu'au creek. Hiver 54, sans l'abbé Pierre, bilan, polyester, freeze. bousculade pour des places assises, taxi-bus moderne.